Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition du podcast Sortie de zone, édition numéro 41 de ce lundi 2 mars. C'est Jérémy Rainville qui est là en compagnie, entre autres d'Alexandre Pratt de La Presse, Simon-Olivier Laurence de La Presse également, et Jérémy Filosa du 98.5 FM. Messieurs, allô, comment allez-vous?
Salut, ça va bien, merci.
Ben, ça va super bien, moi aussi, je suis content, je suis là parce que Mario, lui, est en vacances. Il a pris relâche cette semaine, donc je serai là dans le podcast d'aujourd'hui, celui de vendredi prochain. Messieurs, dans un premier temps, encore une fois... Le Canadien a avalé devant 3-0. S'est fait remonter, m'a trouvé le moyen de gagner le match grâce à Jeff Petrie. Messieurs, ça a passé proche. On était à un millimètre de la catastrophe, encore une fois.
Ben, de la catastrophe, est-ce que ça peut être plus catastrophique que les dernières fois que c'est arrivé? J'ai un peu l'impression, on en a souvent parlé à ce podcast-ci, mais une des grandes menaces du Canadien cette saison, c'est l'indifférence. Et j'ai l'impression que s'il fallait que le Canadien continue d'échapper des avances de 2-0, 3-0, l'indifférence s'installerait tranquillement. J'étais en congé samedi, j'écoutais le match avec des amis et tout le monde était comme, ah ben oui, ils viennent de perdre un 3-0, comme si c'était à peu près normal. Fait que je pense que la catastrophe est déjà à s'amorcer.
Clairement.
Bon, moi, j'ai plus long à raconter que ça, là. Non, mais c'est parce que là, j'étais là pour les matchs de mardi, jeudi. Samedi, je les regardais à la télé, moi aussi, puis tout ça. Écoute, les gars, oui, écoute, comme tu dis, on est passé à un but près en prolongation que ça arrive une troisième fois consécutive. Qu'est-ce que tu veux que les joueurs perçoivent comme message quand à la date limite des transactions, tu échanges quatre gars, puis tu dis, bon, ben, les gars, comment on continue à se battre? En haut, là, ils ont abandonné. Puis tout part d'en haut. On veut un sentiment d'urgence des joueurs. On veut que les joueurs donnent le maximum. Parfait. Correct. Mais il faut que ce soit à tous les niveaux. Est-ce que le propriétaire a de l'air d'un gars qui est prêt à n'importe quoi pour gagner puis qui donne toujours son maximum? Non, il dépense pas à la limite. Est-ce que le directeur général a de l'air d'un gars qui est prêt à gagner à tout prix, à toutes les années? Non, forcé d'admettre. Quand il doit faire des transactions pour ajouter, dépenser de l'argent que le propriétaire potentiellement aurait pu lui donner, il le fait pas. Là, on a un entraîneur qui fait avec qu'est-ce qu'il y a, puis des joueurs qui regardent en haut puis ils disent, lui, il a pas l'air trop stressé plus que ça de gagner.
Mais preuve à tout ça.
Il y a personne qui a pédale au fond dans cette organisation-là.
Preuve à tout ça, c'est que on affronte les Hurricanes de la Caroline qui sont en compétition directe avec le Canadien si on parle de meilleur deuxième. Ouais. Et c'est Charlie Lindgren qui est devant le filet au centre belge qu'on n'a pas vu cette saison. On a vu Carey Price plus souvent qu'autrement. Donc, on dit, écoute, Charlie, bonne chance, puis essaie de nous gagner un match.
C'est ça.
Mais il l'a fait, au moins.
Non, mais moi, je pense que la saison est terminée là, dans la tête d'un joueur du Canadien. Ah oui. Et du moment que les quatre vétérans sont partis, ils ont été remplacés par des joueurs des ligues mineures, c'est fini. Là. Moi, j'ai une game plutôt existante à la maison parce que j'ai un fils qui prend pour les Hurricanes,
okay.
L'autre pour les Canadiens. Alors, ça a été une game, un après-midi très, très, très intense, je dirais, chez nous. Quand même, cette fois-ci, quand même, le Canadien l'a emporté. Quand même, fait preuve de caractère à la fin, quand ça comptait vraiment. Il a laissé partir un point. Et il pourrait laisser partir 1000 points à partir du...
Change pas grand-chose.
Non, mais c'est ça. Là, je pense que le grand défi du Canadien présentement, c'est d'éviter la zone d'indifférence là, qui est très dangereuse pour tout club professionnel quand les matchs veulent prier.
Ben, messieurs, dites-moi donc, Charlie Lindgren devant le filet du Canadien, ouais. Est-ce qu'on se trouve un bon deuxième gardien de but pour Carey Price l'année prochaine avec Lindgren? Est-ce qu'il vous a convaincu?
Non. C'est
non, non.
Non, mais le simple fait qu'il n'ait pas gardé de but depuis un mois ou deux... C'est un message des durs sur le long terme.
C'est quand même assez exceptionnel de performer de la sorte quand t'as pas eu d'action aussi longtemps.
Absolument. Ah, totalement, mais non, il reviendra. Ben, il reviendra pas. Je sais pas où
c'est pas votre
homme. Il sera pas avec le Canadien l'année prochaine, non.
Ben, de toute façon, juste avoir son style de, je suis pas un expert de gardien de but, mais c'est un peu burlesque de le voir aller. J'ai l'impression de voir un gardien des années 90, pas un très grand gabarit, se garoche partout. Je veux dire, je suis content des succès qu'il a parce qu'on s'entend, il est très patient, il a pas une belle saison, lui non plus, à attendre au bout du banc. Mais, comme a dit Alexandre, juste l'utilisation qu'on en fait. Il y a zéro vote de confiance pour c'est ce gardien-là. Lui-même
attends,
le sait. Là.
Même l'année dernière, là, aïe, aïe, là, c'était vraiment difficile la saison dernière. Là.
Deux saisons, on pensait que peut-être cette année, il allait se ressaisir à Laval puis qu'on allait peut-être le revoir. Écoute, si il avait été un peu meilleur, c'est assez clair que les yeux fermés, il aurait pris la place de Kincaid et ben c'est pas le cas, tu sais, je veux dire Kincaid est parti puis lui il
dans une autre organisation
juste pour boucher le
dans tout, l'organisation t'sais. Des Hurricanes de la Caroline,
ouais.
Aussi, soit dit en passant.
Il pourrait jouer pour le Canadien encore cette saison.
Ouais, c'est sûr. Bon, si on a fait ça pour accommoder là, je comprends.
Les Checkers de Charlotte dans la Ligue américaine, donc il est là maintenant.
Mais tu sais, je reviens à la question de c'est qui a posé la question la semaine dernière de la Gazette, son nom m'échappe.
Stu Cowan
concernant les gardiens. Tu Tu sais, je sais pas si Stu faisait référence spécifiquement au match que le Canadien venait de perdre, mais je pense que c'était une question légitime de poser à l'entraîneur. Ben penses-tu que le gardien commence à être fatigué? Tu sais, je veux dire, c'est normal que le gardien commence à être fatigué.
Ah, mais il a dit « Come on, guys, come on ».
Non, mais Claude a tout de suite pris ça comme « Vous le blâmez pour le but qu'il a donné alors qu'il a fait plusieurs bons arrêts ». Je sais pas si la question avait directement référence avec le mauvais but qu'il avait donné, mais je pense que dans une conversation, c'est légitime de poser la question « Est-ce que tu penses que ton gardien commence à être fatigué? »
J'ai plus l'impression que Claude Julien a voulu défendre Carey Price, promptement, peut-être un petit peu trop vite, là, mais vraiment, c'était promptement. Puis à un moment donné, faut se rendre compte d'une chose, c'est que Claude Julien doit être tanné de répéter à ses gars « Hey, il faut continuer à travailler pendant 60 minutes de temps. » Et on a beau faire des petits meetings, vous avez vu, entre la deuxième puis la troisième, on a réuni quelques piliers pour parler, Kirk Muller était là, ça donne rien de plus, on tombe ses talons. Et moi, j'appelle ça, on tombe dans le mode écran de veille, et c'est ce qui arrive chez les Canadiens, écran de veille.
Plus qu'un mois à jouer, là.
C'est quand même 15 matchs. Hein?
Oui, mais les matchs veulent plus rien. Je veux dire, on en a beaucoup parlé depuis un mois. Quand il n'y a pas d'enjeu, les matchs veulent plus rien dire. Ben, tu sais, les gars, ils jouent pour pas se blesser. Il y a peu de joueurs qui jouent pour un contrat présentement chez Canadiens. Il y a juste Domi puis à la limite Hudon, là, tu sais. Fait que, ils ont pas l'obligation de faire 1 milliard de points d'ici la fin de la saison, là. Les autres, ils veulent se rendre à la fin de la saison puis recommencer à neuf.
Et l'élément fierté, es-tu à considérer là-dedans?
Ben, là, quand même bien qu'ils gagnent les 10 prochains. Ils feront quand même pas les séries. Au mois d'avril, les gens, ils vont juste retenir qu'ils n'auront pas fait les séries.
Je pense quand même qu'il y a un élément de fierté là-dedans. Je pense pas qu'un joueur comme Tatar qu'on voit performer depuis le début de l'année, c'est pas juste pour ses stats à lui. Je pense que c'est un gars qui s'est présenté de manière très régulière cette année et veut finir également en beauté la quinzaine de matchs qui restent encore.
Ouais, mais je veux dire, aller à l'entraînement le matin là, pour faire du patin pendant 45 minutes quand tu sais que peu importe ce que tu vas faire le soir, le résultat veut rien.
Ben, ils sont des pros, honnêtement.
C'est des pros. Mais tu sais, j'en ai parlé avec Denis Gauthier puis Bruno Gervais récemment qui me racontaient. Eux, ils ont fait partie d'équipes qui ont terminé dernier ou avant-dernier au classement. Tu sais, ils me disaient, le dernier mois et demi, t'as juste le goût de retourner chez vous.
Ben, c'est sûr. Mais moi, je vous pose la question, les gars, c'est. Je sais que chez le Canadien, on a la politique, puis ça, il y a un règlement de la Ligue nationale aussi là qui force l'entraîneur-chef à être disponible à tous les jours. Mais à ce stade-ci de l'année, est-ce que ce serait pas plus intéressant peut-être de dire, regardez, aujourd'hui, on va vous permettre de parler à Kirk Muller. On va vous donner la permission de parler aux assistants pour peut-être avoir une histoire différente, un point de vue différent. Parce que Claude, il est tanné de répéter les mêmes choses. Nous, on est tanné de lui poser les questions, puis c'est juste normal comme ça.
Il me semble s'enverrait un drôle de message, hein, quand tu dis que c'est ton coach en chef, puis lui qui parle aux médias.
Non, je te dis pas de l'enlever complètement. Je te dis, occasionnellement, dans la semaine, peut-être rendre accessible les assistants entraîneurs pour changer un peu le.
On n'aurait jamais ce débat-là si Charlie Lindgren avait été bon cette année. Tu sais, à la base. Non, mais je veux dire, si le Canadien est dans la course aux séries, on n'a pas ce débat-là.
Ah, ben non.
Présentement, sur la question de Carey Price la semaine dernière. Voyons, tu sais, à la base, le Canadien doit gagner, là, c'est tout, là.
Ah, définitivement. Et on parlait de Claude Julien, puis je fais du coq à l'âne, mais je vais aller à l'article de Mathias Brunet qui est sorti ce week-end dans la Presse Plus. Entretien exclusif avec Marc Bergevin. On parle de 75 minutes d'entretien. J'ai appris plus de choses dans 75 minutes que dans 2h45 de la conférence de presse après la date limite des transactions. Messieurs, là-dedans, on a appris multitude de choses. Premièrement, on a appris que en entretien privé avec Mathias Brunet, le coach était... On parle pas du coach. Donc, Claude Julien, on n'a pas mentionné Claude Julien, absolument rien. Puis, imagines-tu si le gars ne fait pas les points de presse en plus après? Écoute, Claude Julien, là, c'est tic-tac, 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 tic-tac. J'ai l'impression de clock is ticking alentour de Claude Julien, non?
Ben, the clock has ticked.
Ouais. Oui,
ben, moi, je pense... ça me semble assez clair aussi que les jeux... Malheureusement, moi, j'ai défendu Claude Julien toute la saison dans tous les podcasts depuis le début, dans mes chroniques, mais malheureusement, je pense que les carottes sont cuites.
Je pense aussi qu'on va s'en aller dans une autre direction, puis même cette semaine, j'ai eu peur pour lui, mardi ou jeudi, que ce soit la fin, qu'on passe à d'autres choses, qu'on demande à Kirk ou à Dominique de finir l'année. Ceci dit, je lance pas la flèche pour... Je l'ai dit tantôt, ça part d'en haut. Si tu veux être un club gagnant, ça part d'en haut, ça part du propriétaire, ça part du directeur général, puis en haut, il y a des lacunes, aux deux niveaux. Fait que je veux pas lancer la pierre, mais clairement, là, tu sais, je pense que Claude est rendu au bout de ses
capacités de trouver des solutions, mais dans le texte de Mathias Brunet ce week-end, Marc Bergevin n'en a pas parlé directement, mais on peut faire un lien en tant que tel. Il a dit, évidemment, on sera pas des séries de fin de saison si on n'est pas plus constant, si on n'est pas un club plus structuré, faisait référence entre autres au Blue Jacket de Columbus. Je pense que le message va à Claude Julien aussi, là.
Oui,
lui, il va avoir plus de structure, puis il va un club plus constant.
La c'est ça, c'est exact. Ils parlaient des Blue Jackets. Ils ont décidé de jouer en équipe et de porter une attention au détail. Les joueurs doivent acheter la salade vendue par l'entraîneur et jouer de façon structurée, être prêts à se sacrifier. Les bonnes équipes font ça. Ils s'excluent, là. En parlant de ça.
Il s'exclut dans les bonnes équipes.
Mais c'est même en point, dans le fameux point de presse de, que tu dis qui était de 2h45, mais en réalité, c'était 40 très longues minutes pour nous et pour Marc Bergevin. Bergevin s'était un peu avancé là-dessus quand il disait, reprochait à son équipe d'être mauvais à la maison, justement d'être inconstant, tout ça. Mais c'était un peu particulier de dire, ben, ça revient aux joueurs, c'est la faute des joueurs. Mais oui, mais ils sont, il n'y a pas que les joueurs dans cette histoire-là. Il y a quand même un entraîneur qui est là depuis le début de la saison et qui avoue depuis quelques fois déjà, son impuissance devant la situation. Ouais,
mais moi, je pense qu'à la base, il y a des joueurs qui n'ont pas livré. T'sais, l'histoire de cette saison-là, à mon avis, c'est pas la faute à Claude Julien. Ça peut l'être un peu, par contre, à Marc Bergevin, là, qui n'a pas réussi à amener beaucoup de renforts cet été. Mais il parle très sévère. T'sais, si Claude Julien, comme avalé son café de travers, il espérait que Kotkaniemi, je ne sais pas si c'est fait traduire l'article en finnois, là, mais... Il a été très, très dur, là, Marc Bergevin, avec Jesperi Kotkaniemi.
C'est pas toi qui as parlé d'un problème. Tu as-tu demandé?
Ben moi, j'avais demandé la semaine dernière, est-ce qu'il y a un problème d'attitude chez les jeunes? Il m'a dit non, puis là, d'engagement, oui, il y a un problème d'engagement. Mais à ma sens, il a été très clair. Bergevin, il parle de Kotkaniemi comme étant un jeune qui a eu un problème d'engagement et d'éthique de travail pendant l'année. Écoutez, là, c'est le joyau de l'organisation. Il parle de résistance. Que Kotkaniemi a fait de la résistance envers les demandes des entraîneurs. Puis après ça, on peut comprendre. Quand Claude Julien disait qu'il y a des joueurs qui manquent de commitment ici, des joueurs qui font pas de retour en échec arrière. Je sais pas comment on dit ça, échec arrière en français. C'est Kotkaniemi.
Un repli défensif.
Ben, repli défensif. Mais c'est Kotkaniemi qui a été visé une grande partie de la saison.
Mais souvenez-vous des propos de Brendan Gallagher qui avait dit, tu sais, le temps d'avantage numérique, ça se mérite.
Absolument.
Il faut que tu le travailles. C'est un message direct à Kotkaniemi également.
Oui, je suis 100% d'accord avec vous. Cependant, je pense qu'il faut pas non plus ramener les problèmes du Canadien à Jesperi Kotkaniemi. C'était quand même le centre du troisième trio cette année. Oui, Kotkaniemi a eu plein de torts et je pense que c'est bien de les nommer. Et Bergevin a quand même laissé ça sur une note positive de dire qu'il abandonnait pas dans son cas. Mais tu sais, il faudrait pas croire que cette année, si le Canadien est dans la situation où il est, c'est la faute à Jesperi Kotkaniemi.
Mais
c'est notamment
sa
faute.
Ça fait partie de.
C'est pas le bouc émissaire.
C'est ça. Quand j'ai lu dans l'article le fait que lui trouvait que ça avait été une bonne décision l'année passée de le garder dans l'équipe parce que il avait aimé son camp d'entraînement. C'est correct, mais pour un jeune de 18 ans, tu peux pas juste te baser sur 2 semaines et demie, 3 semaines. C'est impossible. Tu sais ce que t'as dans ton jeune de 18 ans. Tu devrais pas te faire une idée sur seulement le camp d'entraînement. Tu devrais automatiquement dire, à moins d'être une superstar, là, ben, tu viens pas directement. T'as connu un bon camp? Yes, sir, bravo, on est fiers de toi. Continue comme ça.
Il y avait pas 150 options non plus, Marc Bergevin.
Les deux autres choix, c'était PK et Plekanec, là. Oui. C'était ça, les deux autres centres de l'organisation. Le Canadien, ça n'allait nulle part.
Je comprends.
Et quand tu repêches un joueur troisième au total, ça se peut là qu'un joueur...
Tu veux valoriser ton choix.
Tu veux bien paraître. Puis tu veux que quand les gens y parlent... Ben, tu sais, ça a bien été, by the way. Il a très, très bien commencé sa carrière à Kotkaniemi. C'est depuis le 1er février 2019 que ça va vraiment pas bien. Puis, tu sais, ça paraît. Là, il en fait de l'attitude. On le voit. On n'est pas des imbéciles.
Ce qu'il a dit quand il est arrivé avec le Rocket pour dire « Enfin, un coach me fait confiance. On me donne du temps de qualité. »
Oublions pas, c'est aussi quelqu'un qui a de l'influence chez le jeune groupe. Tu sais, c'est quelqu'un qui signe beaucoup avec Victor Mété, avec Cale Fleury, avec Suzuki, qui a l'air d'avoir pris comme une certaine distance.
Avec Peeling,
tu sais. Ça va pas bien, le Ryan Peeling, les amis. Là, il y a même pas de points, sauf erreur encore avec le Rocket.
Suzuki peut pas tomber dans le syndicat des malheureux des jeunes du Canadien. Non. Il est occupé à aller chercher la Coupe Molson. Il l'a gagné au mois de février.
Non, mais tu sais, le Canadien fait la différence à l'interne entre un joueur de hockey. Ils appellent ça comme ça. Tu sais, lui, c'est un joueur de hockey et les gens qui jouent au hockey. T'sais, un joueur de hockey, c'est Shea Weber. C'est quelqu'un qui prêche par l'attitude. C'est quelqu'un, il l'a inné. Il a en lui.
C'est un pro.
Alors qu'un jeune ou un quelqu'un qui joue au hockey, c'est quelqu'un pour qui le hockey est un peu secondaire. C'est quelqu'un qui aime c'est bien s'attriquer. Quelqu'un qui aime avoir le gros char, le condo. Il aime le rythme de vie qui vient avec. T'sais, clairement, Suzuki, c'est un joueur de hockey. T'sais, c'est comme Brendan Gallagher. C'est le genre de joueur que le Canadien aime. Je pense pas encore que d'autres jeunes à l'organisation qu'on voyait gros au début de l'année soit rendu là. Puis je pense que ça fait partie du problème.
Je suis quand même d'avis que l'organisation a également un examen de conscience à faire là-dessus et a devra au cours des prochaines années, pour des raisons évidentes, qui sont des raisons notamment générationnelles, revoir sa manière d'encadrer des jeunes, parce que c'est sûr, toutes
ça
les
fait
équipes
longtemps qu'on en parle
toutes les équipes rêvent d'un jeune chez Weber ou d'un Gallagher ou d'un Suzuki, il y a aucun doute là-dessus, mais toutes les équipes composent avec des jeunes joueurs, et si on regarde un joueur comme Patrick Kane, je pense pas que Patrick Kane était reconnu pour son engagement exemplaire, on l'a vu ses nombreux problèmes hors glace, et je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui cracheraient sur Patrick Kane et sur
le talent parle avant tout.
Non, mais son talent était exceptionnel, exact. Mais je pense que, justement, l'organisation peut-être devrait rajeunir, entre guillemets, un peu son approche et peut-être des fois.
Mais
dans
tu peux pas changer ce que je veux dire, je comprends ton point, mais tu peux pas changer l'ADN de quelqu'un. C'est non. Peut-être, faut que tu choisisses, tu sélectionnes mieux, mais tu ne peux pas changer l'ADN. Non. C'est-à-dire, si t'es un pro même quand t'es dans le junior, t'es un pro quand t'es midget, t'es un pro quand t'arrives dans la Ligue nationale, mais tu ne peux pas changer l'ADN d'un joueur. Moi, Kéké, là, faut peut-être, cet été, là, c'est peut-être, faut que tu restes à Montréal, puis entraîne-toi ici, qu'on soit là, qu'on soit proche. C'est peut-être ça qu'il y a à faire, là.
Mais c'est impressionnant ce que Suzuki fait, parce que des jeunes qui sont des jeunes qui, partout où ils ont passé, ont dominé offensivement parlant. Quand ils arrivent souvent dans la Ligue nationale, ça devient très compliqué. Parce que ils se sont jamais fait demander de se replier. Tout ce qu'on leur a demandé dans le junior ou ailleurs, c'est rempli de net. Puis on comptait sur eux pour gagner des matchs. Les entraîneurs étaient contents de les voir se lancer offensivement. Et quand ils arrivent dans la Ligue nationale, pour la première fois, sont obligés de rentrer dans le système. Alors qu'avant, le système, c'était pour les autres, mais c'était pas nécessairement pour eux. Et ça devient très compliqué.
En fait, le système était fait en fonction de ces joueurs-là. Et non, là, mais t'arrives maintenant chez les professionnels, c'est contraire. Faut que tu rentres dans le système.
Puis tu peux pas juste te concentrer sur ton talent offensif. Faut que tu fasses la job aussi plus plate, moins le fun, de revenir en arrière. Puis c'est pas tous les joueurs qui passent au travers. J'ai parlé à plusieurs joueurs dans les dernières années qui m'ont dit les deux, trois premières années, la transition de comprendre que je peux plus jouer de même dans la Ligue nationale était très compliqué. Puis il y en a qui passent au travers, puis il y en a qui passent
pas. Moi, je
travers.
Pense que c'est la grande leçon du Canadien cette année, en fait, c'est que je pense pas qu'on va voir à court terme cinq jeunes de 20 ans ou 21 ans ou moins en même temps dans l'équipe éclore. Tu sais, ce qui a été le cas cette année avec Mété, Fleury, Peeling, Kotkaniemi, Suzuki. Ça fait beaucoup de jeunes en même temps. Puis oublions pas, hein, les jeunes, surtout les choix de première ronde, là, justement, qui ont dominé partout, ils arrivent avec le syndrome du premier de classe dans une organisation. Il n'y a jamais personne qui leur a dit « Hey, toi, ça marche pas ton affaire. » Au contraire, là, ça a toujours été les premiers centres ou les premiers défenseurs. Ils ont joué power play, des avantages. Tu sais, Kotkaniemi, il a quand même été entraîné par son père quasiment toute sa vie là, avant d'arriver au Canadien, il devait avoir du temps de glace, je soupçonne.
Alors, ça devait se négocier au souper, ça.
Ouais, non, alors, tout ça pour dire que c'est très difficile pour un premier classe de frapper un mur. Puis, il y en a qui l'acceptent mieux que d'autres. T'sais, Suzuki, il a quand même attendu un an de plus avant de faire le saut dans la Ligue nationale que les autres. Et c'est porteur. Puis, je pense que c'est pour ça qu'on va être patient avec Cole Caulfield. Et c'est pour ça qu'on va... Parce que
c'est ce qu'on
Benjamin
a appris, d'ailleurs,
a dit,
dans l'article.
Ouais, que Caulfield va probablement rester dans l'NCAA l'année prochaine, je pense que c'est la bonne chose.
Ah oui.
Et l'autre, c'est Kaden Primo. Là. Il n'est pas question directement de lui dans l'entrevue de Mathias, mais quand on lit entre les lignes, lui non plus, là, il ne viendra pas l'année prochaine. C'est pas le sauveur. Là. On n'échangera pas Price pour le mettre lui dans la chaise l'année prochaine.
Et ben, dans le cas de, juste mentionné, dans le cas de Cole Caulfield, il a dit, il a de la difficulté dans son territoire. C'est ce qu'on voit présentement. Évidemment, il y a une décision à prendre. On doit le mettre sous contrat prochainement. Est-ce que Caulfield voudra quitter l'Université du Wisconsin pour s'amener chez les professionnels? Est-ce qu'on va signer Caulfield prochainement? Mais là, ce qu'on apprend dans cet article de Mathias Brunet, qui a été publié ce week-end, c'est que le Canadien voit Caulfield rester dans la NCAA une autre saison, quand tout le monde s'attendait à voir Cole Caulfield arriver comme Dieu le Père qui arrive à Montréal. Marqueur de but. Là.
Ben, quand on voyait les projections des fans, là, ou en tout cas de certains journalistes au mois de décembre, puis ils ont mis Caulfield sur la première ligne l'année prochaine, puis Romanov sur la première page.
Moi, je l'ai mis sur le premier avantage numérique. Je suis désolé.
Mais tu sais, Romanov, c'est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de questions dans l'entrevue de Benjamin avec Mathias. Il projette à court terme comme un joueur de troisième ligne et de désavantage numérique. Ça veut dire qu'il va avoir un trou chez le Canadien l'année prochaine.
J'ai une question pour vous autres. Je pense que c'est un exercice de relations publiques aussi, l'entrevue. Oui. Je pense qu'il a voulu corriger le tir.
Mais
de donner des objectifs à la baisse comme ça, est-ce que ça fait pas partie aussi d'un exercice de relations publiques?
C'est pas des objectifs à la baisse.
Je veux dire,
le Canadien s'est jamais avancé par l'entremise de Marc Bergevin ou de quiconque d'autre. Le Canadien s'est jamais avancé sur le fait que Cole Caulfield sera sur le premier trio du Canadien l'an prochain, sur le fait qu'Alexander Romanov sera sa première paire de défense l'année prochaine. Bergevin s'était montré enthousiaste à l'endroit de ces deux joueurs-là quand il a parlé aux journalistes un peu avant Noël, mais il a jamais pris d'engagement et qu'il y avait eu la question qui lui avait été posée, est-ce que Caulfield pourrait venir à Montréal cette saison? Et il s'était pas avancé, c'était un peu ni oui ni non.
En fait, parce qu'ils l'ont fait avec Peeling l'année dernière, que les gens prennent pour acquis que, ah, OK, ça peut devenir la façon de faire, mais je pense qu'à refaire ce qu'ils ont fait avec Peeling, jamais ils... Un autre, ça, qui a dû avaler mal son café samedi matin. Mais quand Bergevin parle de Peeling puis qu'il dit, écoutez, la pire chose qui puisse lui être arrivée ou presque, c'est d'avoir marqué 3 buts. Parce que nous autres, après ça, on s'est dit, il en marquera probablement même pas 3 dans la saison au complet l'année
dernière. On savait tous, nous autres, ça. On l'a tous dit quand il a marqué ses 3 buts. Attendez-vous pas à ça. Oubliez ça, ça arrivera pas.
C'est peut-être Peeling, le premier lui-même, qui s'est cru être capable d'en marquer plus.
J'espère que non. Puis si c'est le cas,
peut-être.
Tabarouette, j'espère que quelqu'un s'est assis avec pour y expliquer que, regarde, là, OK, regarde, et c'est une chance sur 1 million, là, tu marques un tour du chapeau à ton premier match, mais ça sera pas ça ta carrière, là.
Mais tu sais, juste relativiser sur Romanov, c'est pas, je l'ai vu jouer, là, plusieurs matchs, et c'est un très bon défenseur de type défensif. Il y a peut-être un potentiel à long terme, un potentiel offensif. Mais tu sais, oublions pas, cette année avec Moscou, il était quand même le 6e marqueur de son équipe chez les défenseurs. Donc, puis il y a aucun but. Il y a un but en 90 matchs à peu près dans la KHL. Puis là, il y en a qui le projetaient sur la première paire de défenseurs à gauche de Weber. Oubliez ça, là. Oubliez ça, ça arrivera juste
Moi,
pas,
je
là.
Pense sincèrement qu'au-delà de ses statistiques, qu'on peut faire un comparatif avec Romanov, ce qu'il faut regarder, c'est sa capacité à sortir la rondelle. Ce gars-là a une capacité de donner un bon coup de patin, se sortir d'une mise en échec, de la pression qui s'amène sur lui, et de mettre le puck sur le tape, ce qu'on n'a pas présentement, parce que les gars dégagent ça par la baie vitrée, on n'est pas hyper confiants, les Brett Kulak de ce monde, que je respecte énormément, mais évidemment, il y a une capacité maximale à ce que tu peux donner. Fait que donc, c'est un Romanov qui est capable de soit prendre une mise en échec, éviter la pression qui s'en vient et sortir la rondelle. Sincèrement, ça, c'est en partant, c'est un cadeau pour le Canadien. Parce que c'est un problème, là. C'est un problème majeur.
Mais je veux juste dire, ce qui va être intéressant avec Romanov, clairement, ils l'ont déjà mis dans le line-up, là, de la façon dont Bergevin en parle, c'est qui on va mettre à côté de lui à droite. Parce que ça sera ni Weber, ni Petrie. Normalement, c'est juste sur la troisième paire. Est-ce qu'on met une autre recrue comme Cale Fleury à côté?
Je
pense pas. Donc, ça ouvre la porte.
Moi, je pense que ça va avec Petrie.
Ben, donc, ou ça ouvre la porte à une acquisition du côté droit de la défense cet été.
Ben, il en a parlé, d'ailleurs. Il l'a mentionné. Il a dit, nous sommes prêts à sacrifier un attaquant pour aller chercher un défenseur.
Ouais, mais moi, je pense après un premier défenseur gaucher.
Ouais, c'est ça. Ben donc ça veut dire on est prêt à sacrifier, c'est-à-dire on sait pas à la hauteur de ce qu'on est prêt à sacrifier, mais veut pas, si t'as besoin de défenseurs, je regarde là, on a pas mal du 4 5 6 7, on en a beaucoup, mais du 3 on en a pas. Fait que donc faut-il chercher quelque chose, une monnaie d'échange qui est valable, donc faut tu mettre quelque chose d'intéressant,
tu sais. Ben en fait là, si on essaie de lire entre les lignes, ça pourrait être Jonathan Drouin, parce qu'il a parlé de gens dont il était déçu, mais la valeur de Jonathan Drouin présentement est à son plus faible. Je vois pas un scénario dans lequel le Canadien va le transiger pour un premier défenseur gaucher. Les deux autres, c'est Tatar et Domi. Je pense pas que Tatar va être échangé cet été. Domi, c'est très probable.
Donc.
Mais Domi plus, par exemple, mettez là. Ça, honnêtement, moi, je le vois pas avec le Canadien l'année prochaine. Là. Je vois pas d'horizon, même à moyen terme, dans lequel il va rester avec
l'équipe.
Pourquoi?
Explique-moi.
Si on regarde les défenseurs qui vont passer en avant de lui, moi, je pense que le Canadien va faire l'acquisition d'un défenseur gaucher. Ouais. Il va avoir Chiarot, puis il va avoir Romanov en avant de lui. Il joue du côté gauche, principalement. Il faut jouer à droite. Et Brett Kulak, que je trouve meilleur que Mettez déjà. Ça en fait là, du monde en avant, là. C'est quand même. Fait il pourrait avoir un mélange de Mettez, Domi, ou Mettez plus un autre attaquant, ou Mettez plus des choix.
On s'avance vite, là. T'sais, on sait pas ce que Romanov va donner. On n'a aucune idée. Fait qu'on va voir.
Ben, au pire, Kulak va jouer avant lui quand même.
Je trouve que, tu sais, si je recule il y a 20 ans et plus, on parlait rarement des jeunes qu'on avait, puis que dans 3, 2, 3, 4 ans, ils vont être bons. Parce qu'il y avait des transactions dans la Ligue nationale. Fait qu'on regardait ailleurs dans la Ligue, puis on disait, lui, il pourrait me donner un coup de main. Peut-être que ce serait bon pour une transaction. Là, il n'y en a plus de transactions. Fait qu'on regarde vers quoi? On regarde vers les jeunes. Puis souvent, on en parle comme s'ils sont prêts tout de suite, mais ils le sont pas. Et il faut que l'organisation... Tu sais, dans le texte, il dit... Les attentes sont hautes. Oui, c'est vrai, les attentes sont hautes, mais tu t'aides pas non plus en plaçant un jeune, par exemple, comme Kotkaniemi à 18 ans, tout de suite dans l'équipe. Ben, tu alimentes mais le fait que les gens s'attendent à des résultats rapidement.
C'est une exception à la règle. Cette année, il y a 3 recrues qui ont commencé la saison. Puis mais c'est l'exception, là. Depuis que Marc Bergevin est là, de façon générale, c'est plus une recrue par année, là, que 3, là.
Mais je suis 100% d'accord avec ce que Jérémy Filosa, tu disais sur par rapport aux attentes, comme ça, par rapport à des joueurs qu'on connaît peu. C'est que Romanov, je comprends l'enthousiasme de tout le monde, mais ce gars-là n'a pas joué une minute en Amérique du Nord encore. Pas une minute. Alors déjà, si de ce qu'on lisait du texte de Mathias avec Bergevin, si Bergevin le voit dans l'alignement dès l'année prochaine, déjà le Canadien place des attentes que je trouve trop élevées parce que,
ils l'ont repêché pour ça. Mais ils l'ont pas repêché pour attendre dans 4 ans.
Je comprends, mais c'est quand même un choix de deuxième ronde.
Oui, mais qu'il n'a pas joué.
Il n'a pas joué en Amérique du Nord encore. Je vais être content pour lui si ça marche et pour le Canadien. Mais
ils ont un enjeu de signature. C'est-à-dire, présentement, ils vont se battre contre Moscou. Moscou peut donner 2 millions par année à Romanov. Le Canadien ne peut pas aller plus haut que 925 000. De plus, c'est bon. Donc, je veux dire, ils peuvent pas le signer 925 000 pour 3 ans.
Au total, c'est 1,7 million avec les bonnets.
Peut-être, mais c'est encore moins que ce qu'ils gagneraient en KHL. Donc,
mais dans une perspective de signer un contrat plus lucratif en Amérique du Nord. Donc, veut pas, c'est intéressant.
Sauf qu'il y a quand même des joueurs, tu sais, comme Kaprizov, par exemple, qui appartient au Wild, qui est encore là-bas depuis Mathusalem, qui va peut-être, je sais pas s'il va venir un jour dans la Ligue nationale, mais le Canadien se bat quand même contre des clubs russes. Il a pas le choix de projeter Romanov dans son alignement. Sinon, Romanov, il fera pas le saut ici.
Et quand, dans le texte, quand on parle, tu sais, il y a beaucoup de pression pour ces jeunes-là. Évidemment, on fait référence à la meute journalistique, aux partisans passionnés, mais les contre-performances sur la patinoire font en sorte également qu'on regarde ces jeunes-là arriver parce que il se passe rien sur la glace. On ne voit rien qui est stimulant pour soit la personne qui analyse, qui regarde tout ça, ou le partisan pour dire il y a des choses intéressantes. En défensive, entre autres. Donc, eux sont un peu responsables également de la pression sur les jeunes qui arrivent.
Ben là, c'est eux qui en ont quand même fait jouer 5 en bas de 21 ans cette année dans l'alignement.
Tu sais, dans un monde idéal, tous les jeunes, ou pratiquement tous, à moins d'être un exceptionnel, jouerait 2 bonnes saisons à Laval. Et là, apprendraient leur métier. Et comme un compte-gouttes, une fois de temps en temps, il y en a un qui ferait le saut, puis tranquillement, pas vite. C'est comme ça que ça devrait se faire. Là, on a des gars qui passent de la ligue.
Mais c'est un point de vue business aussi, Jérémy, parce que le contrat d'entrée. Voilà, merci. Fais en sorte que tu dois maximiser ce joueur-là le plus rapidement possible, parce que c'est là qu'il te coûte pas cher. T'es obligé d'utiliser. En fait, c'est le plafond salarial qui force les jeunes à rentrer aussi rapidement dans la
Je comprends, mais tu te mets des bâtons dans les roues en n'attendant pas que ces joueurs-là soient prêts. Fait que je pense pas que tu t'aides en même temps.
Définitivement. Tu brûles du talent. C'est sûr que tu brûles du talent.
Par rapport à ce que tu disais, la pression mise par les fans, les journalistes, le marché, ça fait toujours sourire ça, les gens qui déplorent ça. Tu sais, c'est des joueurs de hockey, ils jouent au hockey depuis qu'ils ont 4 ans, ils veulent jouer dans la Ligue nationale. S'ils sont pas capables de soutenir la pression, je veux dire, quel joueur de football voudrait pas jouer pour les Patriots? Quel joueur de baseball voudrait pas jouer pour les Red Sox?
Je pense pas que c'est tout le monde qui est fait pour ça, honnêtement.
En même temps,
c'est pas à cause de tes joueurs de hockey que t'es fait. Il y en a, sincèrement, je pense, qui sont juste pas faits pour ça.
Je comprends, mais ça vient malheureusement avec la job. Moi, c'est comme ça que je vois ça.
T'as raison, mais il y a des marchés, mais il y a des marchés dans la Ligue nationale où t'es capable de te cacher davantage, puis c'est pas négatif ce que je dis, mais t'es capable, si tu fais des boulettes, y a pas personne qui t'en parle le lendemain. Mais ici, le marché montréalais, à Toronto, les Rangers de New York, c'est un marché où s'il se passe quelque chose, les gens vont t'en parler. Fait que donc, veux pas, tu peux pas te cacher.
Comme disait Alex tantôt, parlait des joueurs de hockey, entre guillemets, mais je m'excuse, mais si t'es un joueur de hockey, t'es prêt à prendre ça, puis tu joues dans un marché où il y a de la chaleur, puis où t'es prêt à composer avec ça.
Puis en même temps, tu sais, ça nuit un peu aux Canadiens, parce que des fois, tu sais, on a tellement le nez collé sur la vitre qu'on analyse chaque match, chaque passe, chaque shift sur la patinoire, alors qu'on sait clairement et pertinemment qu'un joueur a besoin de temps. Ils vont en faire des erreurs, puis on va être obligé de vivre avec. Et si on cogne sur le clou, moi, des fois, j'ai comme le sentiment que le Canadien prend des décisions par rapport au fait qu'on cogne tellement sur le clou d'un tel gars qui connaît pas des bons moments, et donc ça nuit.
Ouais, mais encore là, c'est le Canadien. Moi, là, je jette pas du tout le blâme sur les médias puis les fans là-dessus. Le Canadien a quand même mis Kotkaniemi sur l'avantage numérique à 18 ans l'année dernière. Mm-hmm. Il a fait jouer Victor Mété à 19 ans ou à 20 ans sur la première paire de défenseurs. Ils font jouer Cale Fleury des fois 20 minutes par match. C'est eux là qui mettent la pression. Suzuki, là, il y a 20 ans, il en met en Moses la pression.
Il répond.
C'est à nous aussi de relativiser. T'sais, de pas partir en fou et dire pas, ben, lui, il est pas bon parce que.
Ouais, ça, t'as raison.
On est
là-dessus.
Tellement collés, là, comme je te dis. Le jeune, là, il est rendu à sa 3e game. S'il connaît une mauvaise soirée, t'ouvres la télé après le match, là, ils vont le dire qu'il a connu une mauvaise soirée.
Mais t'sais, est-ce que c'est différent au soccer? Je veux dire, il y a des gars de 18 ans qui sont dans l'alignement de club en première ligue anglaise.
Habituellement, ce sont des exceptionnels. Ce sont des exceptionnels qui ont un talent,
20 ans, là,
un talent supérieur à la moyenne. Fait que, malheureusement, ici, quand tu rentres à 18, 19 ou 20, ça se peut que tu sois pas un exceptionnel.
Non, mais tu veux dire, quand t'es
ça
une
se
recrue...
peut que tu sois juste un bon coup de business aussi,
oui,
quand même. Là.
Quand t'es une recrue avec les Yankees de New York, là, t'en as de la pression. T'sais, mais la pression, c'est pas tous les joueurs qui la prennent également. T'sais, mais je pense que quand t'es un jeune Canadien, mettons, puis tu joues dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario, de l'Ouest ou du Québec, je pense pas qu'il y a grand monde qui rêve d'aller jouer pour les Panthers de la Floride. Là. Mm. Tu veux jouer dans un marché dans lequel il y a de l'ambiance, pis c'est le fun, tu veux pas jouer devant 3000 personnes.
Tu penses, le soleil,
ben, est-ce qu'un joueur,
le soleil
ben,
chaud.
Regarde, je vais te poser la question à l'inverse. T'sais, combien de joueurs, mettons, de soccer rêvent de venir jouer pour l'Impact de Montréal quand tu peux faire une carrière à la Première Ligue anglaise? T'sais? Voyons, pas tant que ça. Là.
Jérémy?
Ben non, c'est sûr.
Ben non, mais pour moi, c'est
j'ai
l'équivalent.
Laissé le professionnel répondre.
C'est l'équivalent. Tu veux jouer dans les plus beaux marchés, avec les plus beaux maillots, avec les marchés qui ont le sort. Tu veux réécrire l'histoire, tu sais. Puis après ça, quand ça va mal, ben là, c'est là que ça commence à, tu sais, tu veux éviter la pression parce que ça a pas bien été ta première, ta deuxième, ta troisième année. Puis là, tu cherches un marché qui est plus...
Fait qu'il faut t'épingler quand ils sont jeunes parce que quand ils sont vieux, ça ne lui tente plus
de
venir à Montréal.
Non, mais on va se le dire.
Totalement.
Non, mais on va se le dire. Un jeune qui sort dans un marché qui est moins couvert par la Ligue nationale, c'est qu'il va avoir une marge de manœuvre un peu plus grande, va peut-être jouer avec moins de pression sur le dos. Et il sait que l'organisation va continuer de le laisser jouer, de le laisser apprendre parce que ils se font pas fusiller de tout bord, de tout côté à tous les jours parce que tel gars est pas prêt encore.
Ouais. Messieurs, dans le texte, je veux revenir au texte de Mathias Brunet, paru dans la Presse Plus ce week-end, un entretien exclusif avec Marc Bergevin. On parle de quoi? 75 minutes? Et tout le monde était là, hein? Et le responsable des relations publiques était là, Marc Bergevin était là, le capologiste était là également. Comment il s'appelle?
Sedgwick.
Oui, exactement. Sedgwick était là. Donc, tout le monde s'était préparé pour ça. Et à travers tout ce qui a été écrit, moi, il y a quelque chose que je retiens. Puis, j'étais en tête de valider un peu l'information avant d'entrer en onde. Puis, je vais vous la poser, la question, puis vous me direz si je me trompe. Il a dit quelque chose qu'on a entendu plusieurs fois. Et je le cite, OK? Je ne prendrai pas de décision à court terme pour bien paraître et faire mal à l'équipe à long terme. Et là, le petit bout que je n'ai jamais entendu, peut-être que vous l'avez entendu, mais que je n'ai jamais entendu, peut-être que ça va me coûter mon poste, mais j'ai trop de respect pour l'organisation. Ouais. Est-ce que ça, c'est la première fois que vous entendez ça de Marc Bergevin?
Non,
je pense qu'il a insinué un peu les mêmes affaires dans les dernières années. Je sais pas s'il a dit que ça va me coûter mon poste, mais il a souvent parlé du fait qu'il respectait l'organisation par rapport à ça. Mais, tu sais, je comprends pas pourquoi on voit toujours ça négativement. Si le Canadien, cette année, est capable d'échanger un jeune pour un joueur établi qui arrive à Montréal et qui signe un contrat à long terme, on sait pas si ce jeune-là va avoir une belle carrière ou il en aura pas, mais je vois pas pourquoi c'est un pas en arrière. Je vois pas pourquoi on voit ça négativement.
Ben, la nuance, c'était nuire à l'équipe à long terme. Donc, dans cette perspective-là, de
choix repêchage.
C'est peut-être qu'il signe pas ce joueur-là.
Ben, je sais pas, mais si on avait échangé, mettons, si le Canadien avait échangé Nathan Beaulieu, quand il y avait bien de la valeur à 19 ans, plutôt que de le laisser partir contre un 42e choix plus tard. Tu sais, des fois, les joueurs sont au sommet de leur valeur quand ils ont 20 ans aussi, là.
Mais tu sais, en même temps, il dit, c'est un peu, pas contradictoire, mais il dit, je veux pas sacrifier des jeunes, pour me nuire dans le futur, mais je veux pas non plus échanger des gars établis qui font partie du noyau présentement. Fait que là, tu dis, OK, avec les jeunes.
En fait, tu fais quoi?
Fait qu'on fait quoi?
T'échanges personne, puis tout le monde reste.
Ouais, mais la phrase telle qu'elle est dite aussi, ça peut aussi laisser entendre qu'il pourrait, par exemple, ne pas vouloir signer un joueur autonome qui mettrait en danger sur le long terme là, la masse salariale de l'équipe. Tu sais, j'ai fait le calcul, là, ça va vraiment être difficile là, en 2021-2022, donc pas l'année prochaine, l'autre après. Là, juste le trio Tatar d'Anno Gallagher, ça va doubler. Ils vont passer de 10 à autour de entre 20 puis 23 millions.
Ça va voir le problème contraire qu'on a depuis 5 ans, c'est-à-dire qu'on a 8 millions de l'eau, on fait rien avec. Donc, fait que regarde, on dealera avec ces problèmes-là rendus là.
Non, mais ça revient vite à Moses, je trouve. Mais peut-être que c'est aussi un petit peu ce qu'il veut dire dans dire, tu sais, je mettrai pas l'équipe dans la merde à court terme. Tu sais, s'il signe un défenseur de 10 millions US cet hiver, là, à un moment donné, cet été, il va
non, mais t'as beau aimer les joueurs que t'as beau avoir confiance à ce noyau-là, parce qu'il le dit, avoir confiance au noyau. À un moment donné, il faut que tu sois réaliste. Tu as des besoins techniques dans ton club. Là, tu as les besoins techniques.
Mais je reviens là-dessus. Je pense pas que le problème présentement, ça soit le noyau. Là. T'sais, le noyau, il joue plutôt bien. Je veux dire, Tatar, Dano et Gallagher sont 1, 2 et 3 dans la ligue pour le Corsi, là, qui est l'indice des tirs pour des
Explique-nous le Corsi.
Le Corsi, c'est super facile. Okay? C'est en gros le nombre de. OK, on va prendre...
Ça part de Jim Corsi, premièrement, qui est un coach et gardien de but.
C'est une statistique avancée qui est critiquée avec raison. D'ailleurs, là, ça dit en grosso modo le temps de possession de rondelles. C'est le nombre de tirs...
De tentatives de tirs
quand vous étiez sur la glace versus le nombre de tentatives de tirs accordées. Donc, ça présume que si vous étiez sur la glace plus souvent pour des tirs de votre équipe, vous aviez la rondelle plus souvent, tu sais, en zone offensive. Donc, ce que ça dit, cette statistique-là, c'est que Tatar, Dano et Gallagher sont 1, 2, 3 dans la ligue. À 5 contre 5, ça veut dire qu'ils ont presque toujours la rondelle en zone adverse.
OK, comment tu peux avoir un trio qui est 1, 2, 3 dans la ligue, dans le Corsi, et d'avoir ton club qui est dans le bas-fond de la ligue, dans les résultats?
Les autres trios et les unités spéciales.
Mais l'équipe, l'équipe est numéro 1 aussi au complet, là, dans le Corsi.
Oui, puis le Canadien est numéro 2 de la Ligue pour le nombre de tirs tentés par match. Pas de tirs tentés, de tirs réussis par match à 34 présentement, mais il est 17e pour les tirs accordés. T'sais. Donc, je pense pas que le noyau de l'équipe soit le problème présentement.
Je répète, donc, si on dit le premier trio, Tatar, Dano, Gallagher, 1, 2, 3 pour le nombre de tirs tentés durant un match à 5 contre 5, quand on dit que le Canadien est l'équipe numéro 2 dans la Ligue pour le nombre de tirs réussis...
Oui, exactement.
Comment ça se fait que ce club-là est d'un bas fond?
Ben, les unités spéciales, c'est terrible.
Pensez-y. Comment ça se fait que ce club-là est d'un bas fond?
Ben, le chiffre sur le Corsi non plus donne pas la qualité de la possession de rondelles. Et comme la statistique sur les tirs, des fois, c'est très trompeur. C'est-à-dire, j'ai vu des soirs, le Canadien, cette saison et par le passé,
avoir 40
lancés. 40 lancés, puis dire, 40 lancés.
Il y a eu peut-être 5 chances de marquer.
Je les ai pas vus passer autour du filet. Des fois, c'est intéressant de voir sur les sites de statistiques avancées les heat maps, les cartes de chaleur, traduction boboche. Où on voit d'où les tirs partent et des fois on voit que c'est pas très coloré autour du filet là, c'est vraiment les tirs viennent de loin, les tirs viennent de la périphérie.
Il y a une autre statistique qui a avancé qui est super intéressant, c'est en anglais les expected goals, donc les buts auxquels on s'attend qu'un joueur marque selon sa position sur le jeu et le type de lancer. Puis Gallagher a deux fois plus de buts attendus que tout le reste de l'équipe, parce qu'il en fait, il est dans les meilleurs de la ligue.
Il est toujours dans la cave.
Mais sérieusement, il est statistiquement, là, pour les freaks de statistiques, Gallagher, là, c'est une perle. Il y a des gens dans le top 5 de la ligue. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont en deçà des attentes. T'sais. Lekkonen, le nombre de chances qu'il a et qu'il ne convertit pas, c'est fou.
Mais c'est ça aussi. Ta réponse, là, c'est là. Est-ce qu'ils sont capables de posséder la rondelle? Oui. Est-ce qu'ils sont capables de se placer dans des situations où ils peuvent tenter des tirs? Oui. Mais encore faut-il la mettre dedans.
En fait, il y a un gros problème de productivité des troisième et quatrième trios. Je vais même mettre le deuxième sans Suzuki. Mais il n'y a pas beaucoup de marqueurs secondaires dans l'équipe. Une fois qu'on enlève le premier trio, dont la tâche est souvent aussi de surveiller le meilleur trio de l'autre équipe, il n'y a pas beaucoup de profondeur après ça en offensive.
Et là, pas juste profondeur pour dire on va aller chercher des joueurs qui sont capables de jouer sur la troisième, sur la quatrième trio, mais aller chercher des joueurs qui seront efficaces offensivement.
Il leur manque un joueur élite en avantage numérique. Là, genre un Tim Kerr là, quand on était petit.
Tim Kerr, lui, était bon. Honnêtement, il était gros, il était grand, puis il était toujours devant le filet. Est-ce que je peux avancer une... Écoute, c'est mon analyse, là, mais quand on parle de Corsi, quand on parle comme ça que le Canadien est un club qui lance souvent, qui a beaucoup de chances de lancer, peut-être, comme tu le mentionnais, Simon-Olivier, peut-être pas de lancer...
De qualité.
Mais est-ce que ça se peut que le problème soit que le Canadien arrive pas à sortir de sa zone? Moi, je reviens toujours avec ça, mais quand le Canadien est dans le territoire adverse, on a quelque chose qui se passe. Mais souvent, le Canadien est dans son territoire puis on n'arrive pas à sortir. Là, on a un problème. Fait que là, ça se met à tourner. Ça se met à tourner sur Carey, ça se met à tourner sur tout le monde.
Les statistiques démontrent que le Canadien est quand même souvent dans l'autre zone comparé aux autres clubs de la Ligue. Il y a un problème dans sa zone. On l'a beaucoup vu, là, dans les deux séquences de 8 défaites, là, le Canadien, il y avait des games dans lesquels il était capable de marquer des buts. Mais il en donnait en
mots
au retour. Tu sais, je pense que Carey Price a eu des séquences difficiles. Je pense que l'année, c'est correct, mais il y a eu des séquences difficiles pendant l'année. Mais il y a eu des matchs où il y a des défenseurs. On parlait d'Indice Corsi, là. Moi, j'ai vu des matchs, là, de Cali Fleury, entre autres, avec des Corsi de 8%, là.
Je sais pas si t'as vu Kulak, dernier but avec Williams qui fait dévier la rondelle, là.
Ouais, mais tu sais, ça veut dire,
le gars, il est là en plein milieu de la zone, puis il y a personne qui touche, il y a personne qui est dessus, il se passe absolument rien.
Tu sais, il y a eu des fois cette année où il y a des défenseurs du Canadien qui ont donné 10 fois plus de tirs et qui étaient sur la glace pour 10 fois plus de tirs de l'adversaire que pour eux, là. C'est énorme, là, je veux dire.
Ouais. Ça, c'est pas bon signe.
Non, en fait, une autre limite aussi de l'indice Corsi et des indices de possession, c'est, comme je disais tantôt, la qualité des tirs, mais également la qualité de l'exécution. C'est-à-dire que la première séquence de 8 défaites, c'est effrayant de parler de la première parce qu'il y en a eu deux, mais la première séquence de 8 défaites, je sais pas si vous vous souvenez, le Canadien, c'était le festival des surnoms. C'était l'équipe bourdonnait à zone adverse, accordeur 2 contre 1, se faisait marquer un but. Fait que sur une séquence du genre, le Canadien peut avoir tentativement quatre tentatives de tir et l'adversaire un seul, sauf que c'est un 2 contre 1, puis il y a eu un but. Fait que quand on parle des fameuses erreurs, les effondrements du Canadien à Détroit récemment, toutes les avances qu'ils ont perdues, c'est pas parce que les équipes adverses inondaient le territoire adverse du Canadien, plutôt c'est parce que ben l'équipe adverse profitait de quelques chances de marquer.
C'est un Moses de bon point, hein, parce que tu sais, quand Claude Julien blâme l'engagement là, de ses joueurs, là, tu sais, l'engagement, ça passe beaucoup par le comment on dit ça, l'échec arrière, le repli défensif.
Le repli défensif, voilà.
On en a vu tellement là, cette année, des séquences là, où, par exemple, Domi ou Kotkaniemi revenaient pas dans leur zone puis qui se faisaient marquer. Puis j'ai vu une statistique il y a deux semaines là, dans un congrès, un séminaire justement de statistiques avancées qui donnait les stats de Max Domi, mais défensive là, contre des attaques, contre des rushs qu'on appelle. C'était terrible. Là,
Puis, mais souvent, c'est ça. Les entraîneurs veulent voir dans la séquence, dans la shot de la TV, les cinq gars. Sur un repli, là, s'il y en a un qui est pas dans la shot, là, c'est parce que là, t'es vraiment trop loin. Ils veulent voir les cinq gars revenir dans la shot.
Surtout leur centre. T'sais, Domi et Kotkaniemi ont quand même commencé la saison au centre, là, puis ça fait mal quand t'as deux
centres. Donc, si on comprend bien, c'est pas juste une question de talent chez les Canadiens, c'est une question de structure, c'est une question d'acheter le plan de match puis de le faire pendant 60 minutes. Parce que le talent peut être là, mais si à un moment donné, tu reviens pas,
mais c'est exactement ce que Marc Bergevin a dit. Mais Mathias, c'est exactement ce que Marc Bergevin a dit à Mathias. C'est exactement ça. Il y a des joueurs qui achètent pas le plan de jeu. Il y a des joueurs qui jouent pas en équipe. Puis Joël Bouchard a dit la même chose à Laval. On a des contracteurs ou des contractants individuels et que les joueurs jouent pour leur agenda avant de jouer pour l'équipe. Il dit on était meilleur avec des gars de la ECHL qu'avec les gars de la Ligue nationale qui redescendent. Ça veut dire qu'il y en a en Moses, ça, des gars qui ont un problème. Ils vont pas dire attitude le Canadien parce que c'est un mot qui est galvaudé, mais qui ont des problèmes d'éthique de travail ou d'engagement. Il y a un problème dans l'organisation présentement.
Mais il y a un problème majeur, mais c'est parce que ça demeure tes mêmes gars qui sont là. Tu peux pas du jour au lendemain sacrifier tout le monde. C'est-à-dire, ça prend un petit coup sur la caboche pour dire,
OK,
on se replace.
Tu peux pas faire ça deux fois en trois ans, non.
Non, tu peux pas faire ça, là. T'es pris un peu avec aussi.
T'es dans un monde idéal, un gars comme Hudon qui est allé quand même, on va le dire, puis je sais que Joël aime pas utiliser ce mot-là, mais il est allé dominer la Ligue américaine. Mais là, on le ramène, puis là, écoute, ça fait juste deux matchs, puis tout ça, mais on dirait qu'à chaque fois qu'il remonte, puis je veux pas dire qu'on l'a mis dans les meilleures dispositions non plus, mais ça finit jamais par cliquer, parce que normalement, dans un monde idéal, Hudon a prouvé ce qu'il a prouvé.
L'avantage numérique va déjà pas bien chez les Canadiens en partant. Là, on est dit, on va aller chercher Hudon parce qu'il y a un bon lancer sur réception. Écoute, faut que le gars se fasse, premièrement, se place avec cet avantage numérique, puis excusez-moi, là je vais faire du second guessing, là. Je vais faire du Monday morning quarterback, là, mais moi, là, de le voir sur le quatrième trio, puis de voir Arturi Lehkonen sur le deuxième trio, je comprends rien. T'as dit à Lehkonen, va dans les estrades parce que t'as de la misère avec ton attaque. Tu le mets sur un trio, il fait encore rien. S'il te plaît, pogne un gars qui a un talent offensif.
Ah, mais on dirait qu'avec Hudon, c'est rendu personnel. Là.
Ah, l'étiquette qu'il y a dans le front, c'est incroyable.
C'est incroyable. Ils ont abandonné, puis c'est ça.
Ben, ils n'ont pas tant abandonné, ils l'ont rappelé.
Ben, je comprends.
Tu as dit toutes les chances que ça marche.
Ils ont quand même rappelé des Louis avant. Là,
ben oui.
C'est comme... C'était pour un besoin différent.
Ben, moi aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu personnel là, envers Charles Hudon. En fait, lui, il devient joueur autonome avec restriction à la fin de l'année. Ce que je lui souhaite, en fait, c'est de se trouver une organisation...
Qui ne soumette pas d'offres.
Exactement, puis qui se trouve une organisation, en fait, dans laquelle il va se plaire. Là, parce que lui, honnêtement, je pense que lui, la saison dernière, il l'a trouvé vraiment long.
Il est passé par le balotage, par contre, et personne ne l'a réclamé.
C'est ça. Ben, il voulait voir s'il était pour remonter.
Mais dans les Ligue américaine, il a prouvé hors de tout doute qu'il est capable d'en marquer.
Moi, je pense que quelqu'un qui lui donne une chance en quelque part, c'est sûr.
Je serais même pas surpris
qu'il connaisse une carrière intéressante.
Mais ce qui arrive, c'est que Charles Hudon, c'est nos collègues de The Athletic qui soulevaient ça la semaine passée. Je trouvais ça extrêmement à propos. Charles Hudon est un peu le même casting que Jordan Wheel. On peut dire ce qu'on veut de Jordan Wheel, mais c'est un joueur qui est beaucoup plus efficace sur un trio offensif que sur un quatrième trio. Clairement. C'est la même chose avec Charles Hudon, c'est-à-dire que sur une quatrième ligne, ben il sert pas à grand-chose, Charles Hudon, parce que ce n'est pas son casting, ce n'est pas un shutdown, excusez-moi.
Mais ce n'est pas juste un gars de pression sur l'équipe adverse. Il peut le faire, mais c'est pas ça.
C'est pas Jake Evans. On voit plein de belles choses de Jake Evans. Charles Hudon n'a pas ce profil-là. Fait que Charles Hudon, sur l'avantage numérique, il a sa place, mais après ça, faut bien utiliser le reste du match à 55. Puis c'est un peu comme ça que le Canadien est pogné. C'est-à-dire que si oui, effectivement, ils ont quelque chose de personnel contre Charles Hudon, ben Hudon va jamais avoir du temps à 55. Sur un trio offensif.
Si jamais il y a un changement d'entraîneur, peut-être que ça peut changer la donne. Peut-être.
Mais en même temps, c'est pas un joueur qui a démontré non plus qui pouvait produire très bien offensivement sur une base régulière dans la Ligue nationale.
Mais il n'a pas été mis, selon moi, dans des conditions pour produire non plus.
Il y a eu quelques chances. Au début de cette année, il y a eu quelques games.
C'est un troisième trio. Haut qu'il est allé, c'est un troisième trio.
Moi, j'aurais aimé, tu sais, dans une situation, surtout comme là, OK, tu t'en vas nulle part. mets-les donc. Il reste un mois. Ouais. Tu veux vraiment prendre une décision finale sur ce gars-là cet été? Mets-les avec les meilleurs que tu as à ta disposition pendant un mois, que ça aille mal ou que ça aille bien. Donne-y ouais. ces minutes en avantage numérique. Au moins, à la fin de l'année, tu vas pouvoir prendre une décision éclairée.
Mais c'est ce que je pense. Oui, mais je pense que c'est en effet sensé. Ça, c'est la réflexion sensée. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas là, qui justifient qu'il est dans la niche depuis 2 ans. Sérieusement, ça n'a pas de sens. Je veux dire, il a rappelé des.
Mais peut-être lui, en premier aussi, il avait une petite question d'attitude. Parce que Joël Bouchard, c'est la première chose qu'il a dit. Il a dit Charles, c'est le fun, là. C'est triste, tout le monde a des problèmes dans la vie, puis on comprend, mais t'as deux bras, deux jambes, puis joue au hockey. Ça veut dire arrête de t'apitoyer sur ton sort, puis commence à jouer. Et ça a fonctionné dans la Ligue américaine. Maintenant, faut être le même message dans la Ligue nationale.
Non, mais c'est exactement. Mais mon point, c'est je pense qu'on sait pas tout, là, dans le cas de Charles Don. Qui fait en sorte que, tu sais, un joueur normal, là, mettons, sans aucun préjugé, en effet, aurait une chance sur la deuxième ligne. Il y a quelque chose de plus qu'on ne sait pas, qui fait en sorte qu'il n'a pas cette chance.
Je ne serais pas surpris.
OK, messieurs, avant qu'on aille de nos prédictions pour les matchs de cette semaine, vous allez sortir votre boule de cristal et vous ferez une Madame Minou de vous-même. Vous allez me dire si le Canadien va gagner ou perdre encore une fois une avance dans un match. Je veux qu'on prenne quelques instants pour parler du coronavirus, parce que là, finalement, c'est partout sur la planète présentement. Tout le monde parle de ça. On a vu même une ligue en Suisse suspendre ses activités. Il y a eu des matchs qui ont été disputés à huis clos. Alexandre Pratt, de ton côté, comment tu vois ça? Comment tu penses que la Ligue nationale de hockey va réagir par rapport à ça?
Ben, en fait, je pense que ça va rattraper beaucoup plus vite qu'on le pense. Si on regarde comment ça s'est passé en Europe, présentement, il y a énormément de compétitions là, qui sont annulées ou qui sont reportées à l'automne. Et ça s'est fait dans un très court laps de temps. Là. Écoutez, le vendredi, il n'y avait rien, puis le dimanche... le vendredi, il n'y avait pas de cas, puis le dimanche, il n'y avait plus de Ligue. C'est comme ça que ça s'est passé. Personne là avait vu venir l'épidémie en Italie là puis que ça ferme tout. Mais là on parle, il y a des grands prix de un grand prix de Formule 1 qui est retardé, il y a des ligues qui jouent pas en Suisse, aucun rassemblement de plus de 1000 personnes est autorisé. En France, aucun rassemblement de plus de 5000 personnes dans un stade fermé. En Suisse là, sauf erreur, j'ai lu qu'il y avait eu 9 cas en Suisse. Il y en a 14 en Ontario présentement, tu sais. À un moment donné, ça va rattraper, il va y avoir un foyer d'éclosion en Amérique. Tous les experts s'entendent là-dessus. Et si c'est dans un gros marché, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. C'est le March Madness présentement au basketball. La Ligue nationale n'a pas fini. C'est la même chose pour l'NBA. Le baseball, ça s'en vient. Je pense que la Ligue nationale n'aura pas le choix, en fait, d'écouter les recommandations des gouvernements et que ça se peut qu'il y ait des matchs qui soient joués à huis clos.
Il faut comprendre peut-être aussi le principe. Le principe en Europe, c'est que la proximité des pays favorise des gens de plusieurs pays à venir voir des compétitions sportives. Tandis qu'ici, c'est l'Amérique du Nord. Tu sais,
À l'inverse, les villes sont plus petites, souvent en Europe qu'en Amérique. T'sais. Fait que s'il y a une éclosion dans une grosse ville, Chicago, il y a 10 millions de personnes, ou Los Angeles, où il y en a 8, ou New York, il y en a 10, ça peut aller très, très vite aussi. Là, t'sais. Puis moi, je pense que ça va même aller plus loin que ça, mais pensons juste au hockey mineur au Québec ou au hockey junior majeur. T'sais, il y a beaucoup de gens là, dans les chambres, tu as une vingtaine de personnes à la fois, ce sont des foyers d'éclosion. On l'a souvent vu, même avec le Canadien, là, il y a eu un virus.
Le fameux virus cette saison.
Il y a genre 7 joueurs qui ont été
arrêtés.
Non, mais il y en a souvent des virus comme ça. Tu sais, quand il y a eu le SRAS, il y a quelques années, il y avait quand même eu une petite panique là, autour du Canadien, puis il y a eu des virus qui se sont passés comme ça. Moi, je pense que c'est sûr que ça doit être la préoccupation numéro un présentement de toutes les ligues, incluant le junior majeur, incluant le midget 3, incluant les ligues régionales au Québec, parce que s'il y a une éclosion, on est dans les séries dans toutes les ligues là, présentement, ou à peu près dans leur mineur, et il va y avoir des décisions qui
vont... Est-ce que c'est un danger pour ma ligue de garage, Alexandre?
ça se peut que... Tu sais, il y a quand même en Europe, ils ont fermé là, des arénas. Là. Donc, c'est une possibilité quand même.
La Fédération internationale a annulé 6 tournois qui étaient des tournois mondiaux, c'est-à-dire c'est des tournois de deuxième division, 4 tournois masculins U18 de division 2, de division 3, 2 tournois féminins de division 1, division 2 en Pologne, Espagne, Luxembourg, Turquie, Bulgarie et Estonie. Fait que,
L'Inter Milan joue un match demain qui est à huis clos. L'Inter Milan, là,
pas de spectateurs.
C'est comme le Canadien de Montréal, ici, c'est dans l'Italie.
Écoute, moi, je me souviens pas d'avoir assisté ou vu un match à huis clos en Amérique du Nord. Là, je parle pas du soccer, là, mais dans les autres sports nord-américains. Et d'habitude, ils annulent les matchs, puis c'est tout. Mais tu sais, je veux dire, on peut bien, là, mais... T'es dans un avion, t'es collé sur du monde tout le temps.
Ben, les vols sont annulés entre les États-Unis puis Milan, présentement.
Les autobus, je veux dire, dans les centres d'achat, les gens, je veux dire, à un moment donné...
Mieux vaut prévenir que guérir.
C'est parce qu'il y a quand même, tu sais, des vols d'avion, il y a, à Canada, par exemple, cesser ses vols avec la Chine, sauf avec Hong Kong. Moi, je pense que les ligues n'auront pas le choix s'il y a des cas d'agir. Il il y a des précédents. Il y a des matchs qui ont été annulés pour des tremblements de terre, des séismes au baseball.
Ouais, ouais, c'est ça. Ils sont plus portés à les annuler que les jouer.
Exactement.
Clos,
puis ouais. Il y a eu un cas, en fait, dans l'histoire de la Ligue nationale qui est quand même important. C'est en 1919, la grippe espagnole, où un joueur du Canadien est mort pendant la série finale, Joe Hall, puis le propriétaire est mort des complications l'année suivante. Ils étaient en finale de la Coupe Stanley. Ils ont annulé après, je pense, c'est le sixième match. Ils se sont produits jusqu'au bout. Mais, c'est sans paniquer. Attendez-vous à ce que ça se peut qu'il y ait des matchs dans le prochain mois qui se présentent à huis clos en Amérique.
Mais je crois que ce matin, les directeurs généraux à Boca Raton ont statué sur le statu quo, en fait, de dire on observe encore la situation. Il n'y a pas de.
Ben, il n'y a pas assez de cas quand même en Amérique du Nord, mais ça pourrait arriver très rapidement.
Ça sera surveillé, évidemment, cette situation-là avec le coronavirus. Bon, mais messieurs, allons-y. On sort la boule de cristal. Le Canadien qui va affronter les Islanders de New York et par la suite fera face à Tampa Bay avant qu'on se reparle vendredi prochain. Alexandre, est-ce qu'on parle de victoire, défaite dans ton cas?
Deux défaites.
Aïe, aïe, ça fait mal. Monsieur Lorange?
Tampa Bay et les Islanders, c'est deux équipes qui vont pas très bien par les temps qui courent, alors deux défaites du Canadien, c'est sûr.
Jérémy?
Deux défaites du Canadien, je suis pas mal
d'accord. Mon Dieu, vous êtes positif. OK, je suis obligé de dire, moi aussi, je pense que ça va être deux défaites, ça va pas bien. Messieurs, c'est déjà tout pour cet épisode sorti de zone. On se reparle vendredi prochain. Gros merci d'avoir été là. Tout le monde, à la prochaine.